Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous arrivons dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 817 sur les blessures qui touchent à l'unité dans l'Église ou de l'Église. Est-ce qu'il est fait mention dans ce paragraphe numéro 817 de trois termes, hérésie, apostasie et schisme? Quelle différence y a-t-il entre ces trois termes?
Alors, peut-être en amont de cette question, il faut réfléchir effectivement à l'Église comme communion. Et Joseph Ratzinger, quand il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, désormais dicaster, en mai 1992, avait donné une sorte d'instruction, une lettre aux évêques de l'Église catholique sur certains aspects de l'Église comprise comme communion. Et dedans, il disait que le concept de communion est au cœur de l'autoconnaissance de l'Église. Donc c'est très fort, c'est-à-dire que dès qu'on perd un peu cette communion, ben, il y a quelque chose qui est en manque du côté de ce qu'est l'Église et de la compréhension qu'on peut avoir d'elle. Alors, ces blessures que l'on fait à l'Église sont de nature différente selon ce que l'homme est capable de, dans sa façon d'agir, de provoquer. Il y a les blessures que l'on provoque par des actes qui sont contre cette communion, et il y a les blessures que l'on reçoit à cause de ceux qui ont agi mal et qui provoquent donc cette perte de communion. Donc il y a deux types de blessures. Il y a la blessure, je dirais, agissante, active, et puis il y a la blessure passive, reçue, hein, un peu comme lorsqu'il y a un accident, il y a celui qui provoque l'accident et qui est responsable, et puis à celui qui reçoit le coup. Hein. Eh bien, l'Église, en tant que catholique, se sent donc marquée par des défections, et il y a donc une blessure qui advient dans l'Église catholique, qui est ressentie dans l'Église catholique quand quelqu'un s'est éloigné de cette communion et a porté un coup à cette communion, une blessure en tant qu'obstacle pour la réalisation pleine de son universalité dans l'histoire. C'est donc par rapport à la catholicité, d'une certaine manière, que ces blessures se font ressentir. L'Église devient moins universelle quand elle reçoit des blessures des uns et des autres par ces différents actes qui lui font diminuer la communion avec elle. Alors du côté de ceux qui agissent en distance par rapport à l'Église catholique, en réaction à l'Église catholique, en blessure vis-à-vis de l'Église catholique, on distingue effectivement différents types de blessures. Il y a le plus grave, c'est l'apostasie. Pourquoi est-ce que c'est le plus grave? Parce qu'il y a une rupture totale de communion, c'est-à-dire c'est presque irréversible, sauf conversion miraculeuse. C'est quelqu'un qui dit non à Jésus-Christ comme unique sauveur, médiateur pour lui-même et pour les siens, pour le groupe qu'il représente. Et de ce point de vue-là, déjà Israël avait connu ces possibilité qu'il y avait que certains s'éloignent du peuple d'Israël, et il y avait le maximum à ce moment-là de peine qui était requis, c'était le rerem, qui était l'excommunication qui était prononcée pour ceux qui avaient commis des actes donc d'apostasie. Et parmi ceux-ci, il y avait l'idolâtrie. L'idolâtrie, aller vers les Baals, c'était très caractéristique de ce type d'apostasie. À côté, il y a des blessures moins considérables, mais qui sont quand même graves. C'est le schisme. Le schisme qui signifie donc séparation, qui signifie rupture, qui signifie coupure surtout. Et c'est une coupure essentiellement relative à celui qui est le chef de notre Église, celui à qui Jésus a dit « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les clés de l'enfer ne prévaudront point contre elle ». Une rupture par rapport à l'obéissance à Pierre crée inévitablement une structure de schisme. C'est-à-dire, je fais quelque chose qui est contre la volonté de Pierre, et je m'éloigne dans une structure qui est, dans le fond, une revendication d'indépendance. Ce n'est pas un refus de la vérité du mystère, c'est un refus de rentrer dans la structure que notre Seigneur a laissée sur la terre. Et donc ça s'appelle à ce moment-là un schisme. Prenons comme exemple, eh bien, récemment, il y a eu dans l'Église catholique un petit groupe qui a suivi Mgr Lefebvre et qui a ordonné des évêques sans le consentement du siège apostolique. C'est le cas typique du schisme, c'est-à-dire coupure par rapport à l'obéissance. Et donc ça, c'est très caractéristique. Et puis, il peut y avoir d'autres cas qui sont à définir, qui sont plus délicats, parce qu'il faut d'abord que l'Église les repère comme étant des hérésies. L'hérésie, c'est une accentuation de quelque chose au détriment du reste. C'est-à-dire, je choisis dans le dépôt sacré une phrase ou une pensée et je la surcharge d'une certaine manière au détriment du reste. Et avant qu'on s'en aperçoive, parfois il faut du temps, parce que comme c'est quelque chose qui est un élément arraché du dépôt sacré, mais fait de telle manière que ce soit grossi, on ne voit pas d'emblée que c'est une hérésie. Donc l'hérésie est un choix particulier d'un élément de la révélation au détriment du reste. C'est, pour donner un exemple, au moment où Luther a lancé ce mouvement de réformation, de vouloir transformer la foi et pas seulement les mœurs, comme le demandait le concile de Latran V en 1515 et qu'accentuera le concile de Trente au XVIe siècle avec tous ces beaux ordres et communautés qui naissent dans cette grande réforme catholique du XVIe siècle, réforme des mœurs, réforme un peu des structures, il y avait une volonté de réformer la foi elle-même. Et quel a été le point d'accroche de Luther au détriment de tout le reste? C'est le mot « justification ». Le mot « justification » a pris tout à coup une ampleur telle que tout devait passer à la moulinette de ce mot. Et tout ce qui était autre que ce mot « justification » était d'un seul coup subordonné à l'idée que Luther se faisait du mot « justification ». C'est l'exemple même de l'hérésie, c'est-à-dire un mot juste qui fait partie de l'Écriture, qui fait partie de l'ensemble du donné révélé, mais je le grossis comme avec une loupe et je ne vois plus tout le reste. Et qu'est-ce que c'est que tout le reste qui est tombé? L'obéissance au pape, les sacrements autres que le baptême, tout petit à petit a été relativisé par rapport à ce mot justification qui était vu comme étant un exercice essentiellement de la foi. La foi justifie, et c'est très vrai que la foi justifie, mais cela n'empêche pas qu'il y a la sanctification, qu'il y a la divinisation, qu'il y a beaucoup d'autres éléments. Et il y a d'abord la conversion. Et la conversion implique l'obéissance, l'obéissance de la foi. La foi est mue par la charité. Si je me coupe de la charité, je me coupe de la communion. Et donc, il y a une hérésie. Donc, il y a eu beaucoup d'hérésies qui n'ont pas été tout de suite détectées parce que, dans le fond, il fallait du temps pour s'apercevoir qu'elles étaient au détriment du tout. Et ce sont les conciles qui sont là bienvenus, conciles œcuméniques, qui permettent de rassembler les évêques pour dire ceci est un schisme, ceci est une apostasie, ceci est une hérésie. Oui. Voilà.
Et toutes les ruptures qui blessent l'unité du corps du Christ peuvent être qualifiés de, par l'un de ces trois grands termes, parce que ça paraît des termes très, très graves, très lourds, mais est-ce qu'il y a d'autres blessures qui peuvent être faites contre l'Église, contre l'unité de l'Église, alors, ou elles sont toutes réunies dans ces trois-là?
Alors c'est vrai qu'il y a d'autres blessures, c'est tout simplement les péchés que chacun peut réaliser dans sa propre vie, contre ça, contre la communion que le Seigneur demande à chacun dans l'Esprit Saint, et ce sont tous les péchés pour lesquels ben, nous sommes appelés par le sacrement de réconciliation à nous transformer, à nous repentir d'abord et à changer de route et à acquérir donc une voie plus conforme à cette sainteté à laquelle nous sommes appelés. Soyez saints, dit Dieu, car moi-même je suis saint. Et donc tout ça, ce sont des blessures contre la communion, évidemment.
Ouais. Et il semble que l'Église, c'est marqué dans le numéro 817, elle condamne ces blessures. Est-ce que quand l'Église condamne ces séparations, c'est vraiment, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est signe d'une impuissance qui s'exprimerait par la colère en disant bon bah je peux rien faire mais voilà je condamne, c'est pas bien. Et ou est-ce que c'est un, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qu'elle veut apporter en condamnant ces, ces blessures-là?
Alors c'est vrai que dans l'Écriture elle-même il y a des appels très nets à ne pas laisser au milieu de soi un corps qui serait marqué par une maladie, hein, par quelque chose qui entraînerait la contagion au corps tout entier, et cette nécessité donc de mettre quelqu'un à part a toujours existé, je dirais, dans le corps d'Israël, puis après dans le corps de l'Église, de se séparer des éléments qui peuvent être contagieux. Et ça, c'est une réaction, je dirais, de santé, au contraire. C'est une réaction de miséricorde vis-à-vis du tout. Il faut savoir renoncer à une certaine partie au bénéfice du tout. Et c'est ainsi que l'Église fait.
Eh bien, merci, frère Edouard. On complétera lors de la prochaine
à bientôt.
Émission. À bientôt.